Bonjour à tous.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouveau podcast d'Implante ta marque.
Chaque mois, nous vous présentons une marque inspirante qui nous partage son parcours et nous livre ses astuces qui lui ont permis d'en arriver là.
Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode.
Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir Mathilde, créatrice de deux marques, le petit illustré de l'intimité et l'atelier de la belle étoile. Suite au podcast, allez faire un tour sur son site ou compte Instagram. Nous avons mis les liens dans les notes.
Voici une présentation rapide de l'atelier de la Belle Étoile et du petit illustré de l'intimité. Situé au pied des montagnes de Savoie, l'atelier de la Belle Étoile fabrique des jouets en bois design de façon artisanale et édite des livres engagés, dont le petit illustré de l'intimité. Les tomes 1 et 2 sont déjà sortis et le tome 3 est en cours. Le petit illustré de l'intimité se veut le plus complet possible, engagé et inclusif pour les enfants. Ainsi, outre l'anatomie et le fonctionnement pur, les livres abordent d'autres questionnements tels que le consentement, la conception.
Nous vous invitons à écouter ce podcast jusqu'au bout car vous retrouverez de nombreuses astuces pour tous les entrepreneurs. Pour nous contacter, rendez-vous sur le site d'Implante ta marque ou retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de vous, raconter votre histoire, votre parcours ?
Alors oui, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Mathilde Baudy. J'ai une formation dans le dessin animé. Voilà, moi, j'ai fait des études en art appliqué. J'ai travaillé dans le dessin animé et dans le jeu vidéo pendant un certain temps. Et puis, j'ai eu envie d'enseigner. Donc, j'ai repris mes études, j'ai passé le concours et je suis devenue professeure d'art appliqué en Savoie. Voilà, j'habitais dans le Nord pendant longtemps et en arrivant en Savoie, j'ai eu deux petites filles avec mon compagnon qui est lui aussi dessinateur, donc qui est aussi issu du dessin animé. Et je suis la créatrice avec mon compagnon de l'atelier de la Belle Étoile, qui est une marque de jouets en bois et de livres engagés. Voilà.
Comment vous est venue l'idée de créer l'atelier de la Belle Étoile et le projet du petit illustré de l'intimité du tome 1 ?
Alors, en fait, c'est deux histoires qui sont parallèles. Il y a d'abord l'histoire des petits illustrés et de l'atelier de la Belle Étoile. En fait, c'est vraiment parallèle. Donc, pour l'atelier de la Belle Étoile, tout a commencé à la naissance de notre première fille. Mon compagnon avait envie de lui faire quelque chose rien que pour elle. Et il est dessinateur de formation, mais il n'avait pas envie de lui faire un dessin comme, entre guillemets, comme tout le monde autour de nous, des copains qui sont illustrateurs ou auteurs de bande dessinée et qui font une BD ou un dessin pour leur enfant. Lui, il avait envie de faire quelque chose, qu'elle puisse toucher quelque chose de tangible. Mon compagnon est très, très fan de science-fiction et lui a dessiné un petit robot qu'il a appelé Albert parce qu'on était en train de déménager pour aller habiter à Albertville. Donc, du coup, il y a voilà, un petit robot qu'il a fabriqué avec un petit morceau de chaîne qu'il avait trouvé dans la maison de famille de ses parents. Et donc, tout a commencé comme ça. Et puis, on a des amis qui ont eu des enfants. Il leur a aussi fait des petits robots. Alors, tous différents à chaque fois, parce que ça l'amusait beaucoup. Et à chaque fois, on avait des super réactions de gens en disant « Mais ils sont magnifiques. Ah, mais vous devriez en faire d'autres. Ah, mais vous devriez les vendre. » Et puis, ben, en fait, on avait tous les deux notre activité. Donc, Romain est auteur de bande dessinée et moi, j'étais professeure à plein temps. Et on disait « Oui, oui, c'est sympa. Oui, oui. » Mais bon, sans en faire grand chose. Et puis ça a continué comme ça pendant 6 ans où on continuait de faire des petits robots, de les offrir, mais pas d'en faire vraiment quelque chose. Voilà, l'idée d'en faire une marque, elle germait tout doucement. On avait des axes, on savait ce qu'on avait envie de faire parce qu'on avait déjà des convictions écologiques, politiques assez fortes. Mais on n'était pas clair, c'était pas prêt, et puis ça nous faisait vachement peur en plus de créer notre entreprise. Et du coup, voilà, on ne s'est pas lancé pendant un certain temps. Parallèlement, donc, moi, mes filles ont grandi, elles ont eu des questions sur leur corps, et j'ai cherché des informations, cherché un livre support pour parler de son intimité à ma fille qui avait vraiment beaucoup de questions. Moi, j'étais enceinte de la deuxième, elle voulait savoir plein de choses, où était le bébé, comment il allait sortir, et puis pourquoi quand elle touche là, ça lui fait des chatouilles, et puis c'est quoi ça, et puis elle avait plein de questions. Et donc, comme en général quand elle a une question et que je ne me sens pas hyper à l'aise pour lui répondre comme ça, je cherche des supports. Et donc, je suis allée à la bibliothèque, j'ai cherché sur Internet et j'ai pas vraiment trouvé ce que je cherchais. À ce moment-là, il y avait Michel Simès qui sortait un bouquin qui s'appelait « Quand ça va, quand ça va pas ». J'avais entendu la pub à la radio et je me suis dit, ben voilà, c'est exactement ce que je cherche. En gros, il faisait la pub en disant qu'il prenait chaque partie du corps, chaque organe, et qu'il expliquait comment ça marchait et ce qui se passait quand on était malade, comment ça se faisait que ça, parfois ça foirait, quoi. Et je me suis dit, super. Donc, je l'ai commandé sans l'avoir feuilleté. Je l'ai reçu à la maison et en fait, j'ai découvert que pour la partie sexuelle, des organes sexués, voilà, il y avait un schéma qui montrait que pour la petite fille, il y avait un trou qui amenait à la vessie. Et que s'il y avait un problème, c'est qu'elle ne se lavait pas bien. Et là, je me suis dit, OK, super, bah, pas du tout, en fait. Donc, je me suis interrompue dans ma lecture en disant à ma fille, non, mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas qu'un trou, il y en a d'autres. C'est plus compliqué que ça. Et puis, j'étais un peu énervée. J'ai des convictions féministes. Et je me suis dit, bah, voilà, si déjà, à nos enfants, on commence à leur dire qu'en fait, elles n'ont qu'un trou pour faire pipi et qu'il n'y a rien d'autre autour. Et que, je veux dire, comment on veut qu'elles se construisent par rapport à ça? Donc, j'ai fait une story sur Instagram. Et Tiffaine et moi, on se suit parce que nos filles ont le même âge à peu près. Puis, elle a réagi. Elle me dit, mais c'est pas possible. Il est nul ton bouquin. Attends, je vais t'en trouver un autre. Et donc, elle a cherché aussi. Elle n'a rien trouvé. Et donc, c'était une longue conversation. Elle me disait, mais c'est dingue, il n'y a rien. Moi, j'ai rien trouvé non plus. J'ai cherché. Elle est allée aussi à la bibliothèque de son quartier. Elle n'a rien vu. Et elle me dit, mais c'est pas possible. Ce livre n'existe pas. En fait, le livre qu'on cherche, toutes les deux, parce que nos filles avaient à peu près les mêmes questions au même moment, le livre qu'on cherche n'existe pas. Et là, d'un coup, elle me dit, mais attends, tu sais que je suis sage-femme. J'ai dit, oui, je sais. Elle dit, mais toi, tu dessines. Elle dit, oui. Elle dit, bah, à toutes les deux... Si ce livre n'existe pas, viens, on le fait. Mais un peu comme un défi, quoi. Un peu. Je me suis dit oui, d'accord, mais un peu comme on se met des fois des défis et puis qu'on le fait pas vraiment. Puis en fait, on l'a fait. On a commencé, on s'est appelé. On s'était jamais appelé parce que les gens sur Instagram, des fois, on a des discussions vachement profondes avec, mais sans forcément passer le cap de s'appeler, etc. Donc là, on s'est appelé. Et puis c'était hyper fluide. C'était un ping-pong, on se renvoyait des idées, c'était super, super motivant. Et puis on a commencé à écrire le livre comme ça, en fait. On s'envoyait des idées, moi je prenais des notes, je lui faisais des photos, des dessins. On est resté des heures et des heures au téléphone. Et donc on a commencé à écrire le livre sur plusieurs semaines de cette façon, sans s'être jamais rencontrés.
Et c'était à peu près à quelle époque ?
Ça devait être l'été 2019.
Ok.
On s'est rencontrés en octobre 2019 pour aller plus vite, pour finaliser, etc. Bah, pareil, hein, c'était une super rencontre. On a parlé comme jamais. On n'arrêtait pas de s'envoyer des trucs. C'était hyper stimulant. C'était très, 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 très vivant. On avance hyper vite. On est retourné chez nous. Moi, j'ai commencé à faire des dessins. On a commencé à formaliser un petit peu ce qu'on voulait faire. Et puis, on est arrivé à quelque chose de pas fini, mais d'assez abouti, qu'on a envoyé à toutes les maisons d'édition françaises ou presque. Donc, on leur a envoyé notre dossier avec les premières illustrations, avec certaines pages de plus ou moins finalisées. Et là, c'était en février, fin février 2020. Et puis, après l'histoire, on la connaît un peu tous. on a tous été confinés. Donc, on s'est dit, on n'a pas de réponse tout de suite. Mais en même temps, tout le monde est confiné à la maison. C'est compliqué. Peut-être que ça va venir après. On a reçu deux réponses de deux maisons d'édition auxquelles on avait envoyé, mais on n'avait pas trop d'espoir parce que c'est vraiment des maisons d'édition très classiques. Donc, on s'est quand même dit que notre approche leur correspondait pas trop. Mais nous, dans le doute, vraiment, on a envoyé à tout le monde. Puis voilà, on a attendu jusqu'en octobre d'après. Donc, octobre 2020, toujours pas de réponse. C'était un peu au point mort. On a continué de travailler, en fait, sur le livre. Parallèlement, en octobre 2020, j'ai monté ma société avec mon compagnon que, pour moi, était complètement décorrélé. Hein. C'était vraiment deux trucs complètement différents. Il y avait ce projet de livre et il y avait mon entreprise avec donc Romain, mon compagnon. On a commencé à imaginer vraiment notre marque à la fin du confinement. On a un peu sur un coup de tête envoyé notre candidature à un salon parisien qui s'appelle la Kids etc., qui est un salon de marque pour les enfants assez cool, etc., en se disant, bon, on sait jamais. Et en fait, on a été accepté. Et du coup, ça a un petit peu précipité les choses. Mais il a fallu créer l'entreprise, il a fallu fabriquer des jouets en série, il a fallu créer toute l'identité visuelle, un petit peu tout en même temps. Donc ça, c'était courant de l'été 2020, du coup. Et au moment de poser les statuts de l'entreprise, on a marqué qu'on serait aussi maison d'édition parce que donc Romain est auteur de bande dessinée. Et il venait de récupérer les droits de sa première BD. Et comme il va en ressortir une là, on s'était dit ce serait bien de pouvoir la rééditer au moment où sort l'autre. Comme ça, on aurait les droits dessus, on pourrait l'éditer comme on a envie, etc. Et donc, voilà. À aucun moment, je me suis dit c'est pour éditer mes propres livres. C'était pour les siens. Et donc, voilà, on fait tous les papiers, on se lance en SARL. Et puis quelque part, j'oublie un peu presque le projet du Petit Illustré, qui s'appelait déjà le Petit Illustré, mais qui s'appelait au départ le Petit Illustré du sexe féminin. Parce que nous, au départ, on était vraiment en mode, on va écrire un livre pour nos filles, à nous. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte de la portée politique de notre projet et du fait qu'on avait envie qu'il soit plus inclusif et du fait qu'on avait envie de parler pas juste de l'anatomie, mais aussi de questionnement. Qu'est-ce que c'est que le consentement? Qu'est-ce que c'est que la puberté? Qu'est-ce que c'est que les règles, etc. Donc, en fait, au fur et à mesure, les deux projets ont évolué. On ne se rend pas compte, mais pour moi, c'était vraiment deux choses complètement différentes et qui avançaient un peu avec... des ressacs, quoi. Ça avançait, puis ça reculait, puis après on refaisait quelque chose. Puis après on se parlait pas pendant plusieurs semaines, et puis après on se disait non, mais on n'abandonne pas, et puis on reprenait le projet, et puis c'était un petit peu pareil avec l'atelier. Et puis j'étais très frileuse à l'idée d'auto-éditer le livre. Voilà, j'avais vu avec Romain ce que c'était que l'édition, et puis moi je viens du jeu vidéo, je viens pas du print, je viens pas de l'univers papier. Voilà, ça me semblait assez insurmontable tout ça. Et je pense que c'est l'insouciance de Tiffen de dire ah non, mais on va pas abandonner. Moi, je pense qu'on peut le faire à toutes les deux, on peut y arriver, qui fait que je dis bon bah au pire, on se plante, c'est pas grave, on verra. Et puis, c'est vrai que maintenant, on a l'entreprise, et puis on peut, dans nos statuts, auto-éditer. Et donc, voilà, on s'est lancé un peu comme ça en se disant, bon, si déjà on arrive à faire en sorte qu'il existe, qu'il y ait un papier, vraiment dans l'optique, c'est pour nous, pour nos propres enfants, au moins on aura quelque chose, on aura ce support qu'on cherche, ce sera déjà bien. Donc, on a fait un peu des calculs, un peu des calculs d'apothicaire un peu pourris, en se disant, bon, alors, si on veut imprimer les livres, il faut qu'on en imprime combien, ça coûte combien, etc. Donc, on a fait des devis un peu sur Internet, et puis on a vu que, voilà, pour que notre entreprise soit viable, il fallait qu'on vende 750 livres. Alors, en fait, tout a été un peu un concours de circonstances. Au départ, on était donc tout début janvier 2021, Tiffen était de garde, et donc moi, pendant ce temps-là, je me suis dit, allez, j'ai quelques illustrations, je lance le compte Instagram. Comme ça, on aura déjà quelque chose qu'on pourra un peu construire, qu'on pourra un peu alimenter, et puis après, on lancera le crowdfunding. Et j'ai mis 9 illustrations, j'ai écrit le texte des 3 premières illustrations, et puis après, j'ai marqué... dans le texte, il y avait marqué « À toi de jouer, Tiffen !» En me disant, quand elle va se réveiller, elle va voir, et puis elle va... Je lui avais envoyé les codes, tout ça. Elle va le voir, et puis elle va écrire les textes à son tour, comme on était décalé, moi j'étais partie dormir. Et en fait, elle n'a pas vu mon message jusqu'au bout. Elle a dit « Ah, mais c'est génial !» Et elle a partagé à tout le monde en disant « On va lancer le crowdfunding, c'est super !» et tout. Mais en fait, il n'y avait rien qui était prêt. On n'avait jamais lancé de crowdfunding. On ne savait pas du tout comment ça marchait. On avait, 9 illustrations sur un compte Instagram avec des textes pour un tiers des illustrations. Mais Tiffen a lancé le truc et elle avait tellement d'entrain et tout qu'il y a plein de gens qui se sont... Enfin, moi, quand je me suis réveillée, il y avait déjà pas mal d'abonnés sur le compte. Il y avait plein de gens qui me disaient « Mais c'est une super idée, il faut vous lancer, c'est génial, où est-ce qu'on commande ?» Et moi, j'étais là « Voilà, mais moi, je ne sais pas, je ne sais même pas comment ça marche. » Donc, je suis allée sur Ulule et j'étais là « Waouh, mais ça a l'air compliqué, je ne comprenais rien. » Bon, j'ai essayé de faire un truc et puis... sur Ulule, il faut attendre d'être validé, on est suivi par le projet, c'est un petit peu long. Et de l'autre côté, ça s'emballait complètement sur l'Instagram en disant oh, c'est génial, mais où est le lien? Où est-ce qu'on partage? Donc ça partageait dans tous les sens. Il y avait des gens qui voulaient savoir comment se procurer le livre, qui n'était pas fini, qui n'était pas le hull n'était pas prêt. Donc là, on a bossé comme des dingues. Moi, je bossais au lycée entre midi et deux. J'essayais de faire des illustrations à la fois sur mon téléphone, à la fois pour essayer d'aller vite. Enfin, c'était une petite semaine de folie. Et puis voilà, on a lancé le crowdfunding. La personne qui nous suit et qui nous suit toujours sur Ulule, Lucille, nous a dit quand même, vous demandez beaucoup d'argent. Parce que bah, nous, on avait fait nos calculs. On avait dit, bon, 750 livres. Pour l'impression, il nous faut 15 000 euros pour être sûr, pour les impôts, pour machin. Et elle nous avait dit, vous savez, c'est tout ou rien, c'est quand même beaucoup, vous êtes sûr? Elle a dit, bah, de toute façon, si on n'a pas ça, on risque de se retrouver à devoir imprimer le livre sur nos fonds propres. Bon, on était vraiment complètement débutantes de tout. Hein. Moi, ça faisait un mois que j'avais une entreprise. C'était vraiment, vraiment très, maintenant avec le recul, très insouciant, quoi. On a vraiment lancé le truc comme ça, quoi. Les illustrations étaient super moches parce que j'avais fait ça à l'arrache. Il n'y avait rien qui était dans le bon format. Il y avait en cours de crowdfunding, on a changé de nom de notre livre. Tout était vraiment lâché comme ça. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'on était extrêmement portés par les gens, qu'on y avait plein de gens qui avaient ressenti le même manque que nous, en fait, d'avoir un support pour pouvoir parler de ce sujet qui est un sujet pas facile, pour lequel on a souvent nous-mêmes des tabous. On s'est retrouvés hyper portés, en fait. On a reçu énormément de propositions de gens pour nous aider, pour nous relire, pour... regarder au niveau de la mise en page si c'était bon. On a eu des propositions de gens dans plein de métiers en disant voilà, moi je m'occupe de la communication de telle entreprise, si vous voulez j'ai un petit fichier avec des influenceuses, je peux vous donner leurs coordonnées. Enfin, on a eu des tas de gens qui nous ont proposé, peut-être parce que ça se voyait que c'était tellement à l'arrache que du coup, mais que le projet était chouette et qu'on était convaincus de ce qu'on faisait. Du coup, voilà, on a été super soutenus par plein de gens. Et voilà, on avait prévu de vendre 750 livres. Aux dernières nouvelles, le tome 1, on en est à plus de 35 000 livres vendus. Donc, rien à voir. Voilà.
En fait, il était temps que quelqu'un s'empare du sujet, je pense qu'il était très attendu et vous êtes arrivé et le public était déjà là avant même que vous créiez le projet.
Ben c'est ça, en fait. Enfin, voilà, nous, on était partis de notre expérience personnelle, de notre manque à nous. Et en fait, bon, nous, on est quand même des personnes relativement lambda. On est toutes les deux mamans, on n'est pas dans le milieu du livre, mais finalement, avec le recul, il n'y a pas de raison que nous, ce dont on avait besoin, il n'y ait pas d'autres personnes qui en aient besoin. Mais sur le coup, on ne s'attendait pas du tout à ça. On ne s'attendait pas du tout à ce retour. Et j'ai envie de dire que même aujourd'hui, à chaque fois qu'il nous arrive un truc, on est là, non, mais c'est incroyable. On n'en revient toujours pas. Enfin, là, ça fait du coup, le premier tome est sorti en mai 2021. Donc, ça va faire bientôt un an. Mm-hmm. Et depuis, c'est incroyable ce qu'on a appris, ce qu'on a découvert, les personnes qu'on a rencontrées. Enfin, c'est vraiment une histoire de dingue, quoi. On redescend toujours pas de notre petit nuage, quoi. C'est complètement fou. Moi, je dépose mes enfants au centre de loisirs et puis je monte dans la voiture, le téléphone sonne et je décroche sans regarder. Et puis là, j'ai oui, bonjour, je suis l'assistante de Maya Mazorette sur Quotidien. Elle voudrait parler de votre livre. Là, j'étais là, waouh! Mais là, je me suis liquéfiée. J'étais là, ok, d'accord, oui. parce qu'on n'était pas du tout prête à ce genre de choses, en fait. Tout a été un peu comme ça, tout a été un peu incroyable, quoi. C'est un enchaînement de bonnes ondes, de circonstances, de gens qui nous ont soutenus, qui nous ont partagé. C'est fou parce qu'on parle souvent d'Instagram et il y a beaucoup de choses à redire, beaucoup de mauvaises choses, mais il y a aussi énormément de choses super. C'est-à-dire qu'un projet comme le nôtre, sans Internet, il n'aurait jamais vu le jour. Il n'y avait aucune maison d'édition qui était prête à prendre ce risque. Bon, d'ailleurs, depuis, on a été recontacté par une maison d'édition, notamment, qui était super intéressée par le projet, mais qui n'était quand même pas prête à prendre le risque, puisque nous a demandé de rhabiller les enfants à l'intérieur du livre. On a dit que c'était un petit peu compliqué de peut-être voir la couverture, de peut-être... Voilà, donc on s'est dit, ok, donc parler d'intimité, d'accord, mais il ne faut surtout pas la montrer. On a dit non, nous, tant pis, on est parti dans notre truc. Et puis, on s'est rendu compte que le fait d'être seul aux commandes, ça permettait de faire le livre exactement comme on en avait rêvé, c'est-à-dire autant dans le contenu que dans le contenant, c'est-à-dire qu'on a pu imprimer en France, ce qui est de plus en plus rare pour du livre, le distribuer en passant par un ESAT. Enfin, on a essayé d'être le plus en accord avec nos valeurs d'un bout à l'autre. Là, on est sur le troisième crowdfunding. Donc, sur Ulule, il y a souvent des contreparties en plus. On a pas mal cherché et Tiffaine avait très envie de faire un tote bag. Il y a quand même, on en a quand même souvent beaucoup et puis on sait que c'est pas toujours très clean. Mais voilà, là, on a pu faire ça bien. Là, on vient de signer le devis. On fait faire en coton bio, fabriqué au Portugal, avec des encres non toxiques. Enfin, voilà, on peut faire attention et faire les choses bien. On peut maîtriser, aller regarder les petites lignes. Et voilà, on ne perd pas la main, quoi. On est nos propres chefs, quoi, sur tout le truc. Et c'est génial.
Mmh. En tout cas, vous nous avez déjà bien écrit, bien décrit votre belle histoire et prouvé finalement, il ne faut pas baisser les bras. Et c'est grâce à ça, hein, c'est que déjà, vous étiez deux, donc vous êtes automotivés. Et le fait de ne jamais baisser les bras, ça vous a permis d'avancer. Il a suffi d'une action finalement, vous, sur Instagram, pour qu'après, il y a tout qui parte et c'est magnifique.
Ouais. Oui, c'est sûr que c'est plus facile d'être à deux. Je pense que, d'ailleurs, on est plutôt à trois parce qu'il y a Romain aussi qui est là et qui a aussi fait beaucoup évoluer le livre parce qu'il a été un peu notre lecteur test. Il a beaucoup dit, mais moi, je ne comprends plus rien. Alors là, moi, parce que là, tu parles de ça, mais après, ça revient là. Ah oui, donc on a beaucoup fait relire à notre entourage. Complètement revu l'organisation du livre. Puis c'est aussi lui qui m'a vachement soutenue parce que la partie administrative c'est plutôt moi, mais pour tout ce qui est création, pour tout ce qui est, enfin pour beaucoup de choses, heureusement qu'il était là aussi. Ouais. Donc oui, c'est important d'être plusieurs, je pense, pour créer quelque chose parce qu'il y a des fois où on est un peu, on croit plus trop ou alors on se laisse un peu démotiver, puis l'autre il. Enfin voilà, c'est plus challengeant quand on est deux. Et puis ça permet de remettre en question ce qu'on pense ou la façon dont on aurait fait les choses. Et puis on dit ah bah oui, c'est vrai, finalement c'est pas plus mal comme ça. Ou... Mmh. Voilà, c'est vraiment intéressant d'être deux.
Oui, ou si on est seul, d'être soutenu et d'avoir des personnes qui puissent être là dans les moments où on doute un peu.
Oui, voilà, deux, c'est pas forcément deux dans... Parce que là, par exemple, Tiffaine, elle n'est pas du tout dans l'entreprise, en fait. Moi, je sais que ça a vraiment été, et elle, c'est pareil, nos familles ont été complètement partie prenante du projet, c'est-à-dire que on leur envoyait, dès qu'il y avait des modifications, on leur envoyait, sa sœur nous faisait des corrections orthographiques, ma tante, enfin, je veux dire, on avait des retours, donc ma tante est instite, elle avait des retours en disant, ah oui, alors là, tu parles de ça, peut-être que le tournée comme ça, on a des amis qui sont psychologues, qui ont relu. En fait, le livre, il a eu un milliard de versions. À chaque fois, on réécrivait. Si je retrouve les fichiers, je pense qu'à la fin, ça doit être la version 56 qu'on a imprimée. Parce qu'on reprenait. Il y avait des versions définitives que celle-là, c'est la bonne. Mais en fait, non. Quand je dis c'est bien d'être à deux, en fait, c'est bien d'être à beaucoup. D'avoir des gens à qui on peut parler de ce qu'on fait et qui peuvent nous donner leur point de vue. Alors, c'est là où ça peut être compliqué, c'est qu'il faut prendre dans le point de vue de la personne à qui on a demandé ce qui nous semble pertinent et pas se laisser éparpiller parce que tout le monde a un point de vue différent. Donc, il faut voir un peu où nous, on veut aller. Et des fois, il y a des choses auxquelles on n'a pas du tout pensé, des gens qui vont nous dire « Ah, mais là, tu ne ferais pas comme ça ?» Ah, mais oui, c'est une super idée. Et puis d'autres qui vont dire ah, moi, j'aurais plutôt fait comme ça. Et là, tu dis ah, oui, mais non. Ah, non, nous, c'est sûr que c'est comme ça. On a envie de faire de cette façon. Et là-dessus, on ne bougera pas. Enfin, il faut arriver à être un peu dans cet entre-deux, de prendre les bonnes idées, enfin, ce qui nous semble être des bonnes idées, mais de garder un cap. Et c'est un peu. Ça, je pense que c'est le plus difficile.
Et justement, avant, vous parliez des valeurs. Quelles sont les valeurs qui représentent du coup vos deux entreprises ?
Alors, nous, ce qu'on dit de l'atelier de la Belle Étoile, c'est qu'on fait des jouets et des livres engagés. Alors, engagés dans le sens où on est très engagés sur du Made in France. C'est important pour nous, pas parce que, pas vraiment parce que Cocorico, on est meilleur que les autres, c'est plus parce que l'idée, c'est on a des savoir-faire ici, pourquoi aller faire ailleurs, en fait, ailleurs où on ne sait pas dans quelles conditions c'est fabriqué, où on ne sait pas quels produits sont utilisés, etc. Plus c'est local, plus on sait que, voilà, en général, on n'a pas envie de polluer à côté de chez soi, parce que c'est là qu'on vit, que nos enfants vivent, etc. Donc, il y a tout ça. Donc, on est engagé sur du Made in France, donc nos livres sont imprimés en France, nos jouets sont faits chez nous, dans l'atelier qui est sous notre maison. Du coup, on est aussi engagé donc sur tout ce qui est écologie, c'est-à-dire qu'on a fait le choix de prendre pour l'impression de nos livres, c'est une SCOP qui est à Rennes, donc une SCOP c'est une société coopérative, donc tous les employés participent en fait à l'entreprise, aux décisions, etc. C'est des gens qui sont adorables. Je pense que le livre n'aurait pas été le même si on n'avait pas choisi cette entreprise-là. Ils nous ont énormément aiguillés, soutenus, aidés pour choisir le papier. Ils ont un label Imprime Vert, ils font très attention à la gestion de leurs déchets, ils font attention aux encres qu'ils utilisent. C'est vraiment une petite entreprise familiale. Donc, il y a ça. Pour nos jouets, c'est pareil, on utilise du bois PEFC. Et on fait hyper attention, on utilise des vernis qui sont français, qui sont non toxiques, avec les normes jouées. Pareil pour les peintures, on utilise vraiment les meilleurs produits possibles. On a tout sourcé au maximum, c'est-à-dire que tous nos produits de base, ce qu'on voit souvent en fait dans le monde de l'enfant ou dans le monde des marques, on voit souvent marque française ou designée en France. Mais le reste, c'est dégueulasse. C'est-à-dire que c'est une marque française, mais par contre, tout est fait au Bangladesh. C'est designé en France, mais par contre, les jouets sont fabriqués en Ukraine, dans des conditions parfois déplorables. Voilà, nous, on est une marque française, designée en France, fabriquée en France. Et tous nos produits de base sont européens. C'est-à-dire que le bois, il est soit français, soit en périphérie France, mais pour l'instant, on a réussi à avoir que du hêtre français. Nos peintures sont allemandes, nos tenders, parce qu'on a des jouets qui fonctionnent avec un système de tenders, ils viennent des Pays-Bas, le vernis est français, les perles qu'on utilise viennent de France aussi, du Jura. Enfin, voilà, on a vraiment essayé de faire on va dire un cercle autour de notre entreprise le plus petit, le plus serré possible. Voilà, là on est en train de réfléchir justement à trouver des peintures qui sont bretonnes, qui sont faites à base d'algues, donc on va faire des tests bientôt. Voilà, on est vraiment dans l'idée d'essayer d'avoir le plus petit impact écologique possible, le meilleur impact social possible et d'avoir un impact politique positif. C'est-à-dire, voilà, on fait des jouets qui sont extrêmement durables. Nous, les premiers jouets qu'on a faits, du coup, ils ont 8 ans, l'âge de notre fille. Ils sont en parfait état et on propose, si les jouets sont abîmés, de les reprendre, de les réparer et de les renvoyer. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui est durable, mais aussi qui est. Nous, on a que des filles. Donc, on est très engagé dans l'impact que peuvent avoir les jouets dans l'éducation des filles, etc. Donc, on a fait des jouets qui sont tous non-genrés. Nos jouets, ils ont tous deux prénoms. Ils ont un prénom de fille, un prénom de garçon. Donc, c'est l'enfant qui choisit ce qu'il a envie. Puis, c'était très important aussi pour nous. Voilà, mon compagnon adore la science-fiction. Il a des filles. Et à un moment donné, il a entendu de la part de proches « Ah, c'est dommage, toi qui aimes tellement la science-fiction, tu as deux filles. Ça ne va pas être leur truc, les robots, les vaisseaux, etc. » Alors que pourquoi? Je gère pas du tout. Donc voilà, tout ça, c'est ça aussi notre engagement, c'est de s'engager pour l'égalité, de s'engager pour l'inclusivité, de permettre aussi de faire travailler des personnes en situation de handicap à côté de chez nous, dans les ZAT d'Albertville, du coup. Mais en y prenant part, c'est-à-dire que quand on travaille avec eux, moi j'y vais tous les jours, tous les 2 jours. Voilà, je rencontre vraiment les personnes qui travaillent. Il y a une vraie complicité. Là, quand ils ont emballé les livres, ils se sont questionnés, qu'est-ce que c'est que ce truc, de quoi ça parle. Donc c'était génial d'avoir ce dialogue avec elles. Voilà. Donc en fait, on s'est dit que tant qu'à créer notre entreprise, il fallait qu'on arrive à faire en sorte qu'elle soit le plus en adéquation avec tous ceux auxquels on croit, nous.
Donc engagé et impliqué.
Voilà, c'est ça. Ouais, c'est l'idée.
Et pouvez-nous nous raconter justement l'histoire des noms de l'atelier de la Belle Étoile et le petit illustré de l'intimité? Donc, vous nous avez déjà dit que le petit illustré avait évolué, son nom avait évolué, mais ouais. Comment vous avez statué sur ce dernier nom et pourquoi l'atelier de la Belle Étoile?
Alors, l'atelier de la Belle Étoile, déjà, c'est facile. On habite à Albertville et juste au-dessus de chez nous, il y a une montagne qui s'appelle la Belle Étoile. Elle est vraiment juste au-dessus, donc de chez nous, on voit la Belle Étoile, donc on est l'atelier de la Belle Étoile. C'est tout bête.
Efficace.
C'est efficace. Et puis, on trouvait que c'était chouette, ça faisait rêver, quoi. On était sous une bonne étoile, et voilà. Et c'est le sommet qui est juste à côté de chez nous. Donc voilà pour l'atelier de la Belle Étoile. Pour le petit illustré de l'intimité, alors tout de suite, moi, j'étais branchée sur le petit illustré. Je trouvais que c'était mignon, un petit illustré. Et puis l'idée, c'était justement d'avoir un support, donc un illustré pour parler. Donc au début, le petit illustré du sexe féminin, parce qu'on avait juste prévu de faire ça. Mais très vite, on s'est rendu compte que ben, voilà, sexe féminin, ça bloquait un peu parce qu'on parlait d'autre chose. On ne parlait pas que d'anatomie. Et puis en plus, il y avait ce côté un peu, c'est que féminin. Alors que, en fait, nous, on voulait aussi que ce soit accessible à tous les enfants, pas que aux personnes qui se considèrent comme des petites filles. Il y a plein de choses. Le mot sexe, ça fait peur, parce que le mot sexe, c'est un mot valise. Quand on dit on va faire un livre sur le sexe pour les enfants, il y a des gens qui nous ont regardés, mais vous êtes complètement tarés. Parce qu'en fait, on n'a aucun mot pour désigner l'organe reproductif, soit on va dire plutôt garçon, soit plutôt fille. On n'en a pas. Dans le sexe dit féminin, on a la vulve, on a le vagin, l'utérus, mais il n'y a aucun mot pour désigner l'ensemble du sexe. Mais c'est aussi la même chose, sexe, c'est aussi la même chose pour dire pénis, testicule, etc. Et puis, voilà, on a vraiment passé du temps à brainstormer, à se dire non, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et puis, en fait, on s'est dit, c'est quoi pour tout le monde? C'est quoi ça? C'est ton intimité. Voilà, en fait, l'intimité, c'est ce qui regroupe tous les sujets dont on veut parler. Et c'est non-genré, en plus. Donc, au début, on avait prévu de faire que le tome 1. Voilà, tout bêtement, parce qu'on a des filles et qu'on s'était dit, voilà, on fait le truc pour nous. Puis après, on a reçu des tonnes de messages en disant, oui, mais moi, j'ai des garçons et je ne sais pas non plus comment leur en parler. Et on s'est dit, oui. Au début, on a eu un petit moment de se dire... Oui, mais on est moins compétente quand même, parce que Tiffany est sage-femme, elle n'est pas urologue. Puis en fait, on sait quand même un petit peu comment ça fonctionne. Et puis, on va se faire aider aussi. On a été aidé par un urologue de l'hôpital de New York où travaille Tiffany, qui a relu aussi, qui a vérifié qu'on ne disait pas des bêtises. Voilà. Et donc, on a fait le tome 2. Et puis, à chaque fois, ce qu'on fait, c'est très vite, c'est une année de frustration. Par exemple, le tome 3, donc, sur les conceptions, la famille, etc. On a déjà un petit peu parlé des conceptions dans les deux premiers tomes, mais de façon très, très, très légère. Et moi, j'ai eu mes deux filles par FIV, parce que j'ai une endométriose. Et du coup, je disais, ça n'existe pas non plus, en fait, un livre qui explique aux enfants comment ça s'est passé, en fait, leur histoire, comment est-ce qu'on devient une famille, c'est quoi une famille, voilà, qu'est-ce que c'est que concevoir un enfant, ça n'existe pas vraiment, voilà, de cette façon-là. Et donc, du coup, on était un peu frustrés de ne pas avoir pu aller plus en profondeur dans les deux premiers tomes, et donc, voilà, le troisième tome va parler de tout ça, de la même façon, la partie très purement scientifique et anatomique. C'est quoi, comment on conçoit un enfant avec les chromosomes, deux cellules qui se rencontrent, comment ça se développe, etc. Mais aussi, comment ça marche quand on est obligé de passer par la PMA, comment ça marche quand on est obligé quand on doit adopter ou quand on veut adopter d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est qu'une famille? Est-ce qu'on a tous le même schéma familial? Qu'est-ce que c'est que les droits de l'enfant? Qu'est-ce que c'est aussi toute la partie naissance, accouchement? Ça, on n'en a pas, on n'a pas montré, en fait, dans les deux premiers tomes. Comment est le bébé? Comment est-ce qu'il sort? C'est quoi une césarienne? Il y a énormément de choses. Puis c'est pareil, c'est comme un fil, en fait. On commence par une idée, et puis on tire, et puis il y a plein d'idées qui arrivent, plein de choses où on se dit, ah bah oui, mais attends, il faut parler de ça aussi, parce que si on parle des droits de l'enfant, il faut parler aussi de qu'est-ce qui se passe quand ces droits-là ne sont pas respectés. Au final, il y a largement de... On a même été obligé de condenser parce que c'est hyper vaste. Et donc là, on a quasiment fini d'écrire le tome 3. Donc, il devrait sortir fin mai. Et on a un tome 4 de prévu. Parce que c'est toujours pareil, on tire le fil et puis on se dit « Mais pour les plus grands, j'ai tellement envie de dire des choses aussi ». Quand on arrive dans la puberté, parce que là, on parle de consentement, mais mais vraiment de façon très soft. Mais en fait, une fois qu'on arrive un peu dans un âge où on commence à avoir des relations intimes avec quelqu'un, comment ça se passe, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a des choses qui sont obligées, est-ce qu'il y a des... Enfin voilà, on a vraiment envie de parler de plein de choses. Et on a d'ailleurs commencé déjà, dès qu'on a une idée, on la met, on a déjà une belle trame de ce qu'on a envie de faire dans ce livre-là, pour parler voilà, de sexualité, de contraception, de rapport au corps, de rapport à une sexualité. On a plein d'idées. On a même peut-être une idée pour un tome 5, mais ça, c'est en réflexion.
Voilà. On s'arrête plus.
Non, par contre, après, on s'arrêtera. Après, on s'arrêtera, je pense. Mais ouais, c'est toujours pareil. Le tome 5, ce qu'on réfléchit, c'est de faire un pour les tout petits. Mm. On sait qu'il y a des gens qui le montrent à des petits, mais vraiment adapté à des tout petits des 3 ans, avec les savoirs de base à avoir quand on est petit. Donc, pareil, comment est-ce qu'on fait, les différences, les similarités, et puis le consentement. Et puis voilà, finalement, la version, le tout petit illustré.
Ça, c'est une bonne idée. Parce que ma fille est petite, et c'est vrai que c'est hyper frustrant de se dire qu'elle est un peu trop petite et on ne peut pas encore lui montrer.
Oui, voilà. Donc on est là-dedans. Donc, et puis après, on s'arrêtera quand même parce que... On a quand même sorti 2 livres en un an. Mmh. On a fini l'année un peu rincée quand même. Et donc là, on va essayer d'espacer un peu plus, de faire... voilà. Okay. Et puis moi, j'ai d'autres projets aussi, 2 livres aussi. Voilà.
Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment vous vous mettez à la place de vos lecteurs, vous vous posez les questions. Quand vous parliez du premier tome, ça me faisait penser à la période pourquoi des enfants qui veulent toujours en savoir plus, creuser, etc. Mmh. Et puis finalement, c'est ça, vous vous mettez vraiment à la place de vos lecteurs et de se dire, bah voilà, à cette période de la vie, ils se posent telle question. Plus tard, quand ils sont ados, ils se posent telle question. Et c'est pour ça, en fait, le besoin est vraiment là.
Mmh. En fait, oui, puis nous, nos enfants à nous, elles grandissent. Moi, ma fille, elle va avoir 8 ans demain. Et du coup, bah, je vois qu'elle change. Tiffaine, c'est pareil. Et du coup, on se dit, bah, quand elle va arriver dans l'âge où potentiellement, elle risque d'être confrontée à ses premières images pornographiques, on dit que c'est 11 ans quand même en moyenne en France, les premières images. Bah, en fait, on veut qu'elle soit prête, on veut qu'elle sache que c'est pas la réalité, on veut les préparer à devenir des adultes qui vont bien se connaître, qui vont être bien dans leur corps, qui du coup pourront avoir une vie sexuelle et affective épanouie. Et tout ça, ça passe par l'éducation.
Oui.
D'ailleurs, c'est nous, on parle de ça, on parle d'éducation à la vie affective et sexuelle. C'est très lié, en fait, hein, dans nos sociétés, c'est très lié. Donc, c'est important d'être éduqué à ça, parce que normalement, il y a 3 séances obligatoires par an à partir de la maternelle à l'école, et on sait que ce n'est pas fait. C'est fait parfois, mais c'est très rare. Et malheureusement, beaucoup de professeurs ne sont pas formés et ils ont peur, à juste titre, d'ailleurs, d'avoir des retours de parents qui ne seront pas contents. Donc c'est important aussi de changer le regard là-dessus. Nous, c'était un autre challenge, c'était d'arriver de faire changer les mentalités en douceur, en faisant des choses qui sont douces. C'est-à-dire que nos livres, ils sont positifs, joyeux. Pas un livre, on a essayé de pas faire des livres d'honneur de leçons, on est vraiment là-dedans.
Oui, ça se voit. Comment avez-vous développé du coup votre identité par rapport au thème abordé et au public visé, et pour créer vos illustrations justement, qu'est-ce qui vous inspire?
Pour nous, dans la marque, dans l'atelier de la Belle Étoile, tout le monde est à l'atelier de la Belle Étoile, mais il y a vraiment les jouets d'un côté qui sont une marque, et les petits illustrés qui sont de l'autre côté, qui sont aussi une marque. Et donc, pour les petits illustrés, moi, j'avais plusieurs choses. J'avais envie que ce soit très coloré. L'avantage de chercher des livres, d'abord, et de voir que ce qu'on veut n'existe pas, c'est qu'on a vu plein de livres qui parlent plus ou moins de l'intimité. Des livres type Zizi Zézette, ou type Le Zizi Sexuel, ou qui est pour les plus grands, mais ou d'autres livres de ce type-là, ou le livre de Michel Simès, par exemple, quand ça va pas, c'est de voir en fait tout ce qu'on n'a pas envie de faire. Donc du coup, moi, je n'avais pas envie de faire des bonhommes cartoons. C'est quelque chose, par exemple, qui m'avait un peu gênée dans celui de Michel Simès. C'est des bonhommes très, très cartoons, donc ils ont une très grosse tête et un tout petit corps. Et du coup, ben en fait, les dessins anatomiques qui sont dedans, ben forcément, ils ne sont pas justes. Parce qu'on n'a pas les poumons 2 fois plus petits que notre cerveau. C'était important pour moi que les dessins soient réalistes. C'était la première chose. et que on puisse, du coup, qu'on puisse se reconnaître dedans quand on est un enfant, qu'on puisse se reconnaître soi, qu'on puisse reconnaître son voisin, sa copine, qu'on puisse y avoir toutes sortes de corps, toutes sortes de couleurs de peau, toutes sortes de coupes de cheveux. Parce que c'est aussi arrivé avec des questionnements de ma fille qui disait « Eh ben moi, je suis une fille parce que j'ai les cheveux longs. » Ah ben non, en plus, regarde maman, elle a les cheveux courts, c'est une fille. Donc non, c'est pas un marqueur. Bah oui, mais les garçons, ils peuvent pas avoir les cheveux longs. Bah si, regarde tonton, il a les cheveux longs. Ah oui, mais lui, c'est pas pareil. Ah bon, pourquoi ? Elle avait plein de questions comme ça, donc je me disais, c'est important aussi de les voir. Parce que c'est vrai que la plupart des bouquins qu'on achète pour enfants, il y a des personnages qui sont très stéréotypés. Les petites filles, elles ont des grosses têtes avec des couettes. Et les petits garçons, ils ont forcément les cheveux courts et ils sont forcément en pantalon. Et les filles, elles sont forcément en jupe pour bien voir que c'est des filles. Et moi, je me suis dit, c'est vraiment dommage ça. Parce que du coup, les enfants, ils apprennent par observation et conclusion. Donc, s'ils observent dans leur entourage et dans tout ce qu'ils voient que les filles, elles ont les cheveux longs, elles sont en rose et elles ont des jupes et machin... Bah même si elles ne se sentent pas à l'aise dans ce stéréotype-là, elles vont se sentir obligées de se l'appliquer puisqu'on leur a dit qu'elles sont une fille parce qu'elles ont a priori un sexe de fille. Donc, elles vont être obligées de tout s'appliquer à elles-mêmes. Donc, moi, c'était important, et Tiffaine aussi, d'être inclusive là-dessus, d'avoir plein de formats de personnes différentes parce que quand on va dans la rue, en fait, tout le monde est différent. Et c'est dommage d'avoir qu'une seule représentation.
C'est chouette parce que du coup, vous avez vraiment travaillé le fond, mais la forme qui a autant d'importance. Tout montrer, ça appuie encore plus le message.
Et il y a des choses qui sont vraiment des impensées. Par exemple, au départ, quand on a commencé à faire les coupes anatomiques, j'avais mis que des peaux claires. Alors, il y avait des dessins de plein d'enfants différents, mais toutes les peaux étaient claires. Déjà parce que du coup, j'avais fait qu'un seul dessin de fond et après, j'avais juste changé les organes. Et on a eu un retour d'une personne qui nous a dit, mais... Encore une fois, c'est que des peaux claires. Et dans tous les manuels scolaires, j'ai vérifié, c'est que des peaux claires. C'est toujours un fond beige. Et je me suis dit, mais en fait, je n'y ai même pas pensé. Mais oui, mais c'est vrai, c'est complètement con. Et pourquoi ? Enfin, je veux dire, en plus, clairement, quand on fait une coupe anatomique, on ne voit pas la peau, en plus. Enfin, je veux dire, ça devrait être tout rouge. Mais on le fait pour une question de lisibilité. Sauf que du coup, c'est pas du tout inclusif. Donc là, on s'est dit, oui, elle a raison. On va changer les couleurs aussi. Varier là-dessus. C'est des fois des questionnements qui sont venus au fur et à mesure. Et après, j'avais envie de quelque chose qui soit anatomique, juste anatomiquement, mais qui ne soit pas trop froid. Voilà, moi, je n'avais pas envie que notre livre il ressemble à un manuel de SVT. Et du coup, en mettant de la texture, en travaillant les couleurs, en mettant des petites fleurs, des petites feuilles, il y avait un côté toujours un peu organique, mais un peu plus joyeux, un peu plus printanier, entre guillemets. Et puis du coup, c'est un peu comme ça que les choses sont arrivées. Hein. C'était des choix successifs. Ouais.
Ça devient un bel objet qu'on a plaisir à lire. Il faut que ça devienne un beau moment. Et forcément, ça passe par le beau aussi.
Oui, puis en fait, on a fait des tests. Et puis avoir une texture sur tout le papier, ça le rendait plus doux, plus chaleureux, par exemple, que d'avoir un papier blanc. Il n'y a quasiment aucun endroit dans le livre où on voit le papier blanc. C'est toujours légèrement rosé. Donc, ça donne vraiment une douceur. Mm-hmm. Donc, il y a eu tout un travail là-dessus aussi. Et puis après, les couleurs, j'ai des petites fixations sur les bleu-vert. Donc, ça se retrouve un petit peu dans les livres. Un petit peu. Voilà.
Mais c'est bien, ça réappuie sur le côté non-genré et encore plus inclusif, en fait.
Aussi, ça faisait partie des choix, d'ailleurs. Et d'ailleurs, les couleurs de l'atelier de la belle toile côté jouet, c'est on a aussi fait une recherche de couleurs qui sont plutôt non-genrées. On a beaucoup de bleu, de vert, de turquoise, voilà.
Donc, tout le monde s'y retrouve.
Essayer de faire pour que tout le monde s'y retrouve. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que les enfants ne font pas forcément les choix qu'on attendrait d'eux en les regardant par un prisme de stéréotypes. Donc, c'est super.
De toute façon, quand on sait qu'historiquement, le rose, finalement, c'était pour les garçons avant, c'est...
Oui.
Quoi ?
C'est drôle. Le rouge versus... Parce que le rouge, c'était l'agressivité des hommes. Et donc, du coup, forcément, si on met du blanc dedans, c'était pour les plus petits hommes. Alors que maintenant, il y a un enfant dans la rue qui est habillé en rose. Si c'est un garçon, il va prendre potentiellement des réflexions, même si je trouve que c'est en train de changer.
Et heureusement,
les mentalités évoluent doucement, mais ça évolue. Doucement. Donc ça, c'est chouette.
Et comment vous organisez pour votre communication ? Donc, on a vu au début que Instagram, c'était un peu très spontané et une belle surprise, mais maintenant que vous avez un peu de recul, vous avez une organisation plus posée, des objectifs ?
Non. C'est toujours à l'arrache. Non, c'est toujours quand même tout moins à l'arrache. Soit Tiffen, soit moi, d'un coup, on se réveille en disant « Ouh là là, on n'a pas posté depuis pas mal de temps. » C'est toujours soit l'une, soit l'autre. Ou l'autre qui dit « Ah, ben, j'ai envie de parler de ça. Est-ce que tu peux me trouver une illustration qui correspond ?» Ou c'est moi qui d'un coup, me dit « Ah, j'ai envie de parler de ça. J'ai envie de faire un texte sur inclusivité, sur un machin. » Hop, je me mets à écrire. Et puis je trouve une illustration ou je fais une illustration. Puis en fait, non, il n'y a rien de très organisé, posé, écrit. Alors, ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on dit, hein, mais là, on a une visée à long terme, mais on n'a pas de. Mais pour chaque poste, il n'y a pas une organisation particulière. C'est un peu comme ça nous vient en fonction de ce qu'on vit, en fonction de ce dont on a envie de parler.
Mais c'est ce qui fait que ça fonctionne sans doute, c'est la spontanéité et la fraîcheur. Vous la rattrapez justement avec sur Instagram où on sent ce souffle peut-être moins organisé mais qui fait du bien.
Ouais, peut-être aussi. Et puis visuellement, il y a quand même un ensemble qui est cohérent. Et il y a plusieurs choses. Des fois, on parle de nous, ce qu'on vit, les avancées des projets, de où on en est, etc. Mais il y a aussi, on essaye de mettre du contenu, on essaye d'avoir des posts sur de la réflexion, sur des éléments qui vont au-delà de nos livres.
Donc, vous essayez de jongler un petit peu entre les deux quand même assez naturellement.
Oui, assez naturellement. Toujours pareil, il y a des choses qu'on vit, puis il y a des choses du calendrier aussi qui fait que d'un coup on se dit ah ben là on a envie de parler de ça. Il y a eu des fois où j'ai eu des réflexions de mes élèves, alors qu'ils savent pas du tout que j'ai écrit le livre parce que Bodhi, c'est le nom de mon compagnon et moi on n'est pas mariés, donc en fait je m'appelle pas vraiment comme ça. Et du coup ils savent pas du tout que j'ai écrit ces livres-là et pourtant ils ont eu des réflexions et puis je me suis dit, oh là là. Il faut absolument que je fasse un post là-dessus, il faut que j'écrive là-dessus, parce que ce qu'ils m'ont dit, c'est tellement révélateur de ce qu'on essaye de faire avec ce livre. Enfin, voilà, il y a des choses qui arrivent et qui fait qu'on se dit, bah, tiens, ça, il faut qu'on en parle, ça, il faut qu'on le mette. Voilà. On peut dire que si on a fait les livres, c'est aussi parce qu'en discutant avec Tiffen, on se disait, mais elle, dans son métier de sage-femme et moi, à travers mon boulot de prof, donc j'étais prof en lycée professionnel, je suis relativement jeune et du coup, c'est très souvent où j'ai eu des questionnements d'élèves sur des questions de vie affective ou de santé sexuelle et où j'ai toujours répondu. Mais j'ai eu des, je peux vous assurer que j'ai eu des perles, des trucs, c'est pas piqué de l'hameçon. Et elle aussi. Et on s'est dit, mais il y a une méconnaissance, mais incroyable. En faisant nos recherches, on est tombé sur des études qui montraient qu'il y avait seulement 7% des femmes qui étaient capables de placer leur clitoris correctement sur un schéma, par exemple. Et ça, c'est incroyable. Donc, ça montre qu'il y a une vraie méconnaissance. Donc, cette étude, c'est une étude américaine qui montre que les personnes qui ont une bonne éducation à la vie affective et sexuelle, à leur anatomie, au consentement, etc., ont beaucoup moins de chances de subir des violences sexuelles. Et donc, c'est vraiment important. On a l'impression des fois qu'il faudrait préserver les enfants, les laisser dans une espèce d'ignorance pour qu'ils restent, je cite, des petits anges. mais en fait, on se rend compte que non. Ne pas parler de quelque chose, ça, c'est ne pas lui donner corps, ne pas le faire exister. Et qu'en fait, comment on peut protéger quelque chose dont on n'a même pas conscience que ça existe. Donc, c'est vraiment important de parler de tout ça.
Et puis l'un n'empêche pas l'autre, c'est pas parce qu'ils apprennent des choses et qu'ils ont une connaissance de qui ils sont, qu'ils n'ont pas leur candeur et leur naïveté devant eux, ça n'empêche pas l'autre.
Non, puis je veux dire, c'est vraiment, en plus, c'est vraiment le seul organe du corps pour lequel ça fait ça, c'est-à-dire qu'on va apprendre aux enfants tous les noms des doigts de la main, ils savent que ce que c'est qu'une phalange, ce que c'est qu'un auriculaire, mais par contre, toute leur vie, on va leur dire ça c'est une zézette, et c'est tout, il n'y aura rien d'autre. Du coup, ils sentent bien quand même, ils sont pas idiots, ils savent bien que bon, le reste, on leur a tout expliqué comment ça marche, ce qui n'empêche pas qu'ils aient de la candeur. Hein, je veux dire, le fait de connaître le fonctionnement de son corps n'empêche pas d'être un enfant. Mais sauf cet endroit-là, donc c'est un peu curieux. Alors que ça fait partie du développement de l'enfant de se questionner. Enfin, je veux dire, à un moment donné, un enfant, il va bientôt apprendre à marcher, il découvre ses pieds, il va toucher, il va les mettre à la bouche, enfin voilà, c'est normal, ça fait partie de son développement, il a besoin de savoir comment c'est fait, de sentir des sensations dessus pour pouvoir ensuite développer la marche. S'il commence à toucher son sexe, c'est aussi qu'il va commencer peut-être à avoir une réflexion autour de la propreté, autour de, voilà, autour de plein de choses. C'est totalement normal. Et il y a plein d'adultes qui disent « Ah, n'en touche pas, c'est sale !» Non, c'est pas sale. C'est pas plus sale qu'un pied, c'est pas plus sale qu'une main. Voilà, c'est important de parler de tout ça.
Casser les tabous, oui, exactement. Ouais.
Et finalement, pour votre communication, vous avez la ligne directrice, le fil en fait que vous suivez au fur et à mesure, et vous le suivez avec spontanéité, et c'est ça qui fonctionne.
Oui, je crois que c'est ça. En fait, on a quand même, quelque part, c'est comme si on avait un cadre qu'on a posé dès le départ. Alors, le cadre graphique, déjà, et puis de ce qu'on veut dire. Et puis, on se fait plaisir de façon très instinctive à l'intérieur de ce cadre. Mm. C'est un peu ça.
Et ça fonctionne.
Ouais, 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 on s'éclate et puis on apprend énormément. Mmh. Moi, je trouve que c'est ça qui est le plus chouette, c'est que tous les jours, je me dis ah bah maintenant je sais faire ça. Ah bah alors là, je pensais pas. Et on apprend plein de trucs. Et c'est extrêmement stimulant.
C'est peut-être ça là qui est de la réussite.
Justement, parlant de réussite, quel est le secret de votre réussite, si vous aviez quelque chose à nous dévoiler?
Bah, si je l'avais, bah, ce serait super parce que je pourrais faire à chaque fois. Pour moi, le secret, c'est de faire quelque chose auquel on croit. Mm-hmm. C'est de ne pas se forcer ou faire quelque chose parce qu'en ce moment, c'est comme ça que ça marche, parce qu'en ce moment, c'est la mode de ça et que du coup, on se met dans les codes de quelque chose qui existe déjà. C'est de faire quelque chose qui nous plaît, avec lequel on est en accord et auquel on croit. Et je pense que si vraiment on y croit et qu'il n'y a pas une petite dissonance cognitive quelque part qui nous dit « ouais, tu fais ça, mais enfin bon, t'es sûr que c'est vraiment utile, t'es sûr que ça… » Enfin, voilà, nous, on peut répondre à n'importe quelle attaque parce qu'on est sûr de ce qu'on fait, on est persuadé du bien fondé de notre entreprise, de nos valeurs, de ce qu'on fait. Et on peut nous attaquer sur plein de choses. Bon, ça, du coup, ce n'est pas beaucoup arrivé, mais en fait, on pourrait répondre sans problème parce qu'on est persuadé que ce qu'on fait, c'est important. Mais même au niveau, il y a les petits illustrés, bien sûr, parce que ça a une vraie portée politique, mais même au niveau des jouets, on est persuadé que ce qu'on fait, c'est aussi c'est important. C'est mettre une petite pierre à l'édifice et et qu'il y a un impact positif. Donc voilà, c'est plus facile d'y croire et de travailler dessus quand on est convaincu de ce qu'on fait.
Exactement. Et vous nous l'avez déjà un petit peu dit, mais quels sont vos prochains objectifs?
Alors, notre objectif, ça va faire 2 ans que l'entreprise existe, là en avril. Notre objectif, c'est de pérenniser l'entreprise, d'abord, de faire en sorte qu'elle arrive à perdurer dans le temps. Parce que le cap des 2 ans, ça peut être un peu casse-gueule. D'arriver à faire tous les petits illustrés dont on rêve. Que Romain vient de signer pour... chez un éditeur pour une BD en 3 tomes. Donc, il n'a plus autant de temps à consacrer à la fabrication de nos jouets, mais on n'a pas envie pour autant d'arrêter de faire des jouets engagés ou de les faire ailleurs ou par d'autres gens. Donc, on est en train de se former à une fraiseuse numérique. Donc, on est en plein dedans. On fait des allers-retours à Grenoble. Il y a un Fab Lab très chouette. Et donc, on apprend à fabriquer nos jouets avec un système qui est commandé numériquement. Donc, c'est un vrai gros challenge. Voilà. Donc, pérenniser les activités pour arriver à en vivre tous les deux le plus longtemps possible. Parce que c'est toujours ça le challenge. C'est d'arriver à vivre de ce qu'on fait, quoi.
Et maîtriser encore plus tous les acteurs de l'entreprise.
Ouais, c'est exactement ça.
Et justement, dans 5 ans, vous voyez où ?
Eh ben, j'espère exactement au même endroit. J'espère que je pourrai toujours être en disponibilité, que l'entreprise elle sera toujours viable, que on aura toute notre série de petits illustrés qui sera finie, que j'aurai commencé l'autre série auquel je pense et dont je ne parle pas encore parce que c'est en réflexion, etc., mais qui est encore un documentaire pour les enfants, mais sur d'autres sujets, un autre sujet qui me tient vraiment à cœur, que je ne ferai pas avec Tiffen cette fois-ci. mais avec une autre amie. Nous, on a plutôt le problème d'avoir pas assez de temps pour le nombre d'idées qu'on a. Mais voilà, j'espère qu'on aura fini d'aménager l'atelier pour pouvoir fabriquer nos jouets en série via notre fraiseuse numérique, qu'on arrivera à aménager aussi des temps purement de travail et des temps purement en famille. Parce que c'est vrai que quand on est en couple et qu'on travaille dans la même entreprise, on a souvent tendance à faire déborder sur les soirs et les week-ends. Et cette dernière année, on a énormément travaillé. En plus, moi, j'étais salariée jusqu'à septembre. On a vraiment, vraiment travaillé de 7h du matin à minuit tout le soir, puis sans pause, à tout le temps être en action. Et là, voilà, c'est d'arriver à tenir le coup aussi physiquement, psychologiquement, en gardant des moments pour vivre aussi notre vie personnelle et pas que notre vie d'entrepreneur.
Exactement. Alors, on vous le souhaite.
on va tout faire pour.
Mais oui. Est-ce que vous avez quelques conseils et astuces pour des entrepreneurs qui se lancent ou qui veulent donner un nouveau souffle à leur projet ?
Alors, j'en ai un. Je fais partie depuis quelques semaines d'un groupe d'entrepreneurs. Alors, si c'est pour des femmes, d'un groupe d'entrepreneuses, de ne pas rester seule. Là, moi, par exemple, je fais partie d'un groupe avec que des entrepreneuses femmes de ma région qui me permet d'échanger autour des questionnements qu'on peut avoir en tant que femme entrepreneur. Enfin, moi, je préfère dire entrepreneuse, mais c'est vrai que c'est un peu double sens, donc c'est un peu chelou. Donc, ne pas rester seule, ne pas avoir peur de poser des questions, d'aller frapper aux portes, parce qu'au pire, qu'est-ce qui peut nous arriver à part se prendre un nom. Ça, c'est la première chose. Et je conseillerais aussi, parce que je viens de le voir justement dans le groupe dans lequel je fais partie d'une personne qui s'est lancée dans un projet qui est très chouette, mais dans lequel elle n'a pas forcément fait appel à un graphiste. Et on vit dans une société qui est extrêmement visuelle. Et quand le travail n'est pas fait par un professionnel, ben, ça se voit. Et des fois, c'est dommage parce que le projet est chouette, l'objet est intéressant et ça pourrait marcher, mais si l'emballage et si le visuel qui est associé avec n'est pas le bon, Et ça peut tout rater, quoi. C'est un vrai travail, la communication, et ça demande du temps et ça demande de l'investissement. C'est vrai que nous, on a la chance d'être tous les deux dans le visuel et d'être tous les deux... on n'est pas graphiste, mais on est tous les deux formés au logiciel, on a tous les deux des bases quand même, on a fait tous les deux des arts appliqués. Et du coup, c'est un vrai plus, parce que c'est vrai que du coup, ça nous coûte moins cher, mais c'est important d'avoir un beau site internet, c'est important d'avoir un beau logo, d'avoir des visuels qui tiennent la route. Les gens ne vont pas arriver à mettre des mots dessus. Quand ils voient quelque chose et que ça ne leur plaît pas, ils ne sont pas forcément capables de dire « Ah, mais c'est parce que ton logo, il est pixelisé et du coup, ça ne fait pas propre. » Ils vont dire juste « Je ne sais pas, ça ne fait pas sérieux. » Mais en fait, c'est pour ça que ça ne fait pas sérieux. C'est parce que ça a l'air d'être fait par la petite cousine qui dessinait un petit peu bien sur un coin d'une table. Mais en fait, à l'échelle d'une entreprise ou d'une marque, c'est pas assez. Donc voilà, ça vaut le coup de se tourner vers des professionnels du visuel.
C'est vrai, voilà. Que c'est ce qu'on retient, l'image. C'est triste, mais l'image est essentielle. On ne peut pas intéresser les gens si on n'a pas capté leur attention, en fait.
C'est la première chose qu'on voit, en fait. Moi, ce que je disais toujours à mes élèves, c'est... Moi, j'avais des élèves en hôtellerie, entre autres. Enfin, avant de choisir un restaurant, on regarde la devanture. On ne sait pas ce qu'on va manger. On ne sait pas ce qu'il y a dans l'assiette. C'est peut-être excellent. Mais si vous n'avez pas réussi à vendre que c'est excellent à travers votre image, à travers votre logo, à travers votre carte, c'est raté, en fait.
Clairement. C'est un beau mot de la fin pour conclure ce bel échange, en tout cas.
Avec plaisir.
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ?
Non, là, ça va. Je ne vois rien.
Parfait. En tout cas, on vous remercie pour le temps consacré et tout ce que vous avez partagé avec nous et tous ceux qui vont nous écouter.
C'est comme quoi il y a encore des beaux projets qui naissent où, en fait, les porteurs de projets ne savent même pas comment d'un coup il y a eu le déclic et ça a fonctionné et c'est chouette. Le travail et le projet font énormément, mais il y a aussi des moments, des timings, des rencontres qui boostent, et ça, faut pas l'oublier non plus.
Et mais c'est tout à fait ça.
En tout cas, merci beaucoup pour ce bel échange. On espère que beaucoup de monde pourront l'écouter et que ça apportera beaucoup, en tout cas.
Et j'espère aussi. Merci.
Merci à vous et à très bientôt.
Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Nous espérons que cela vous a plu et nous vous donnons rendez-vous très vite pour un prochain épisode.
À bientôt !